Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Ça se dispute avec Julien Drey et Gilles-William Golnadel qui s'est trompé de chaise. Monsieur Golnadel, mettez-vous...
Je préférais pourtant celle-là.
Oui, mais vous savez que sur cette émission, vous ne
Il y a une caméra.
Voilà,
il y a, caméra,
il y a des caméras. Ça. Merci d'être avec nous, cher, cher William.
Oui, c'est ça.
Et merci à Julien Drey.
Bonsoir d'abord.
Bonsoir à tous les deux. C'est une émission un peu particulière avec une actualité, vous le savez, très lourde. Je vous propose qu'on fasse un point sur l'actu, qu'on voit les différentes informations de ce vendredi et on parlera bien évidemment de ce crime atroce et de l'affaire Lola.
La CGT appelle à de nouvelles journées de grève et de manifestations les jeudis 27 octobre et 10 novembre. Ces mobilisations pour réclamer une augmentation du SMIC, une indexation de tous les salaires sur l'inflation et une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. 300 000 personnes ont déjà manifesté mardi selon les organisateurs. Giorgia Meloni, officiellement nommée première ministre ce soir, elle a présenté dans la foulée son gouvernement. La liste des ministres reflète son désir de rassurer les partenaires de Rome. L'ancien président du Parlement européen, Antonio Tajani, membre de Forza Italia, est nommé aux affaires étrangères. Et un représentant de l'aile modérée de la Ligue, déjà ministre dans le gouvernement sortant, prend le portefeuille crucial de l'économie. Et si Boris Johnson faisait son retour au 10 Downing Street au lendemain de la démission de Liz Truss, l'hypothèse d'un retour prend encore. Les soutiens se sont peu à peu déclarés aujourd'hui en faveur de l'ancien Premier ministre. Trois mois après son départ, Boris Johnson ne fait toutefois pas l'unanimité parmi les cadres du Parti conservateur. Et puis c'est une page de l'histoire du football français qui se tourne. Franck Ribéry officialise son départ à la retraite. Le joueur de 39 ans aux 81 sélections en équipe de France ne supportait plus sa douleur au genou. Il évoluait dernièrement au sein du club italien Salernitana.
Sur l'information, 7 jours après le drame et la découverte du corps de la petite Lola, l'effroi, la stupeur, la colère ne s'estompent pas. Un premier hommage en accord avec la famille de la défunte s'est tenu ce vendredi et se tient toujours puisque ça a commencé à 17h30. Vous l'avez suivi sur les antennes de CNews. On va rejoindre tout de suite notre envoyée spéciale Marine Sabouin. Merci Marine d'être avec nous. Vous êtes sur place et vous avez pu entendre les témoignages des personnes qui sont venues rendre hommage à la petite Lola. L'hommage a commencé à 17h30. Qu'en est-il autour de vous, Marine ?
Eh bien écoutez, Elliot, il y a le frère de Lola qui est présent, Thibaut, et son demi-frère Jordan qui se trouve devant le portrait de leur petite sœur Lola. Et donc énormément d'émotions hein, depuis 17h. Sur ce portrait, il est écrit « Lola, tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits », signé des noms donc de ses frères Jordan et Thibaut. Alors nous avons vu énormément de familles à Foucreuil hein, qui viennent des villes alentours. On a vu beaucoup de bouquets, des roses blanches notamment ont été apportées par les habitants de Foucreuil. On a vu aussi des enfants déposer des dessins de Lola, un cœur avec écrit Lola, des anges. L'un des dessins présente Lola avec des ailes d'ange entourées de colombes. Sur celui-ci, on pouvait lire « Lola, tu es une douce étoile dans la nuit qui chasse les nuages ». Alors on a échangé avec ses habitants, hein. La plupart sont parents, grands-parents, ils sont très émus. Ces personnes nous ont expliqué, essayer de trouver les mots justes pour soutenir les parents, trouver les bons mots pour montrer à la famille de Lola qu'elle n'est pas seule dans ce drame tragique. Puis je le rappelle, hein, vous le voyez sur les images d'Olivier Gangloff, il y a ce portrait depuis 17h qui est affiché, le portrait de Lola avec inscrit le message de ses frères Thibaut et Jordan. Lola, tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits.
Et je remercie Olivier Gangloff qui vous accompagne. Si vous me permettez, on va rester sur ces images qui sont en direct depuis Foucreuil, qui est dans le nord et dans le département du Pas-de-Calais. Merci Julien. Peut-être une première question. Alors, il n'est pas question de hiérarchiser les crimes, la barbarie, la douleur, mais la mort de Lola a marqué cette semaine tous les Français, Julien. Comment vous expliquez cette vague d'émotions qui irradie maintenant le territoire, mais qui a mis un certain temps avant d'arriver?
Parce que le crime est atroce, et qu'on n'est pas tous, mais beaucoup d'entre nous sommes des parents ou des grands-parents, et que tout le monde, y compris c'est les conditions du crime, sont encore plus atroces de ce qui a filtré dans la presse. Hein. Et donc je pense que l'émotion, elle est légitime. On est avec cette famille, on est avec ses parents, on pense toujours évidemment aux nôtres. Est-ce qu'il aurait pu leur arriver? Donc voilà. Alors après, il y a des problèmes politiques qui sont posés, comme toujours dans ce genre de situation. Il y a un temps pour le recueillement, il y a un temps pour le débat politique, et le temps du débat politique est nécessaire parce qu'effectivement, il y a des explications, des compréhensions de ce qui, des événements, etc. Mais elle avait, si vous me permettez, la photo de cette jeune fille. Elle a une telle image d'ange que ça vous prend au trip, quoi. Et moi, j'ai pas d'autres mots. Hein.
William.
C'est quoi votre question? C'est pourquoi l'émotion a été croissante, c'est ça?
Le fait que ça ait pris peut-être quelques jours, oui, effectivement, et qu'aujourd'hui, ça s'irradie sur tout le pays.
Moi, je refuse de céder au chantage que j'entends sur le fait qu'on ne devrait pas s'exprimer complètement sur cette affaire. Il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est une enfant, petite enfant, 12 ans, massacrée dans des conditions épouvantables. Ça étreint tout le monde. Vraiment, ça étreint tout le monde. Maintenant, et moi le premier, hein. Et je dois dire que j'étais aussi un des premiers à en parler sur les réseaux sociaux. Parce que pour répondre directement à votre question, sans aucun phare, c'est d'abord les réseaux sociaux qui en ont parlé. Ensuite, Le Figaro et Le Parisien qui en ont parlé complètement en ne cachant pas la nationalité et le caractère irrégulier de la présence de son assassin sur le territoire français. Et pendant que, par exemple, un journal comme Le Monde a tardé à annoncer la nouvelle et a caché pendant un moment l'identité de la meurtrière. Donc très clairement, mais je l'ai dit très dès le départ, ça ne me gêne pas de le dire, le fait que une petite Française blanche soit assassinée dans des conditions aussi épouvantables par quelqu'un, ou plutôt quelqu'une qui ne le soit pas, gêne quelqu'un pour ne pas faire le jeu de l'adversaire. C'est aussi terrible et scandaleux que cela. Donc, à partir de là, j'ai entendu... Non, mais si je peux aller...
Allez-y, allez-y.
L'explication. J'ai entendu dès l'instant où on ne peut plus, par la grâce des réseaux sociaux et de ce que j'appelle la fâcheuse sphère, on ne peut plus, les autorités d'occultation ne peuvent plus enterrer une affaire. D'accord ? À partir de là, bien entendu, le mot instrumentalisation a été utilisé par l'extrême gauche médiatique pour tenter, encore une fois, d'empêcher le regard...
Mais pas que l'extrême gauche.
Pardon ?
Pas que l'extrême gauche. Ça a été un argument du gouvernement en disant instrumentaliser.
Oui, enfin, le pauvre gouvernement, il est, lui, dans une situation politique difficile. Mais l'extrême gauche médiatique, c'est le thème de l'instrumentalisation. Or, l'instrumentalisation, le jeu de l'émotion, c'est au cœur même de la démarche émotionnelle de l'extrême gauche depuis des années. J'aurais pas assez d'une journée pour vous dire. Alors tout le monde vous dit George Floyd, Elan, Traoré, tout ce que vous voulez. J'ai pas assez d'une journée. Ils passent leur vie à instrumentaliser. Et je termine dans des conditions où la spéculation intellectuelle est beaucoup plus grande que dans l'affaire Lola. George Floyd, le Derek Chauvin, le policier blanc qui tue George Floyd, c'est très certainement un salaud, il n'y a pas de doute. Mais de là, on déduire, comme on l'a fait, que tous les policiers américains sont Tandis que, en ce qui, je termine, ouais. en ce qui concerne, en ce qui concerne Lola, il n'y a pas de spéculation intellectuelle. Si la meurtrière n'avait pas été comme elle n'aurait pas dû être sur le territoire français, là, Lola serait parmi nous.
Vous savez qu'on va chapitrer.
Non, mais vous
c'est notre objectif, non, c'est de chapitrer, c'est ça, de se poser
c'est,
toutes les questions.
C'est pour ça que vous avez beaucoup de choses. L'autorisation de parler.
À tout dire, vous avez beaucoup de choses à dire, bien évidemment, William. Mais peut-être une réaction, Julien Bray.
Je voulais lui laisser l'autorisation de parler, parce que si j'avais coupé, il aurait commencé à expliquer que je le coupais parce que j'étais gêné et que j'étais embêté. Alors moi, je vais vous dire une chose, je suis gêné sur rien. Et je pense que, justement, il faut être gêné sur rien, au sens, il faut regarder la réalité en face. Il ne faut pas chercher à la cacher. Il ne faut pas donner le sentiment qu'on est gêné. Voilà. Moi, je suis simplement, parce que c'est comme ça, c'est mon éducation. Quand il y a une petite enfant, qu'elle soit blanche ou pas blanche d'ailleurs, qui meurt dans les conditions dans lesquelles elle a été tuée, je suis d'abord, dans un premier temps, ému et solidaire de la famille. Donc je ne viens pas tout de suite dire, voilà. Après, je sais, c'est normal, qu'il doit y avoir un débat sur la personnalité, en l'occurrence de la tueuse, sur la situation qu'elle a sur le territoire français. Alors, si vous voulez qu'on ait un débat sur sa nationalité, oui, ça fait pas tous les Algériens des assassins.
Non.
Si vous voulez me dire qu'elle est en situation qu'elle aurait dû quitter le territoire et que donc ça pose le problème des EQTF, comme vous dites, puisque c'est maintenant le mot à la mode, oui, ça veut dire qu'il y a une responsabilité. C'est incontestable qu'il y ait une responsabilité. On ne peut pas dire c'est un fait divers et c'est une fatalité et on n'y peut rien. Il y a une responsabilité, on doit l'assumer. Voilà, il faut l'assumer sincèrement, sans pour autant après donner le sentiment qu'on se jette comme ça sur, comme on fait pas. Bon, je ne veux pas polémiquer trop avec Julien parce que je pense que ce soir la décence de notre débat ne doit pas donner le sentiment qu'on est en train de se disputer là-dessus. Mais comme on fait certains. Voilà.
Et on va y
alors, l'erreur, d'après moi, effectivement, ça a été que peut-être le gouvernement ou d'autres ont donné le sentiment que parce que c'était une immigrée en situation irrégulière, algérienne. Non, il faut dire la vérité. Et seule, comme me disait le proverbe, seule la vérité est révolutionnaire. Bon. Pour que ça ne se reproduise pas, qu'on essaye que ça se reproduise
pas. Je sais que vous avez énormément de choses à dire et que ce sujet est extrêmement lourd, extrêmement clivant. Mais on va tenter de le chapitrer. D'abord, peut-être la première réaction du président de la République.
Si vous me permettez, Eliott, je ne pense pas que ça soit clivant. Je pense que certains essayent de le cliver. Mais moi, regardez, je suis pas, je cherche pas à cliver.
Non,
mais je cherche pas à cacher la vérité.
Mais on peut se rendre compte d'ailleurs cette semaine, tout au long de la semaine, que lorsque certains ont pu parler, par exemple, de la nationalité et du caractère illégal de la principale suspecte, ça a été considéré par certains comme de la récupération politique, comme à l'extrême,
pense que
de faire des manifestations, de payer des droits, etc.
Je vais me permettre de dire,
allez-y.
Je pense que ceux qui ont donné ce sentiment-là
n'ont
pas rendu service à la maturité de la réflexion qu'il faut avoir ensemble pour que ce genre de situation, on n'empêchera jamais les crimes.
Bien sûr.
Mais on peut essayer de créer les conditions pour que.
On va quand même se demander s'il aurait pu être évité. Mais avant cela, je voudrais vraiment qu'on écoute Emmanuel Macron parce que c'est sa première réaction publique. En début de semaine, il a rencontré la famille à l'Élysée, mais il n'a pas réagi. Et c'est la première fois qu'il le fait, c'était à Bruxelles. Écoutez attentivement ce qu'il va dire. Et il y a le fond, mais il y a surtout la forme. Et moi, quand j'ai écouté le président, j'étais assez surpris. On a l'impression de voir quelqu'un de groggy, de marqué par ce qu'il s'est passé et sans solution. Écoutez.
Je pense que qu'est-ce qui nous touche tous ? C'est l'atrocité de ce crime. C'est l'atrocité de ce crime. Et c'est aussi ce qu'il a de... à la fois d'inqualifiable et d'absolu quand on est face au mal radical et qu'on fait l'expérience que c'est possible dans notre société et que c'est là. C'est ça qui est vertigineux. Et je pense que tous les parents vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola. La peur pour un enfant qu'on dépose à l'école, la peur pour un enfant qui rentre à la maison en sortant des classes, c'est ça. Exactement ça. Et donc moi je pense surtout aux parents de Lola, à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unie dans ce moment. Et je pense qu'elle a d'abord et avant tout besoin du respect et de l'affection de la nation. Avant toute chose.
William.
Je réagis sur quoi ?
Bah, sur le fond et la forme. Peut-être la forme d'abord. Bon.
Écoutez, je n'ai pas envie de... Chacun sa manière de...
D'interpréter.
D'interpréter. Simplement, c'est le président de la République. Donc, qui disent d'abord et avant tout sur l'émotion, mais après. Mais après, parce que, je veux dire, y a cette malheureuse enfant, et cette malheureuse enfant est devenue un symbole. Il y aura avant et après Lola. Parce que les victimes de la délinquance irrégulière, c'est ça, elles sont de plus en plus nombreuses. Et jusqu'à maintenant aussi, vous savez, je lisais une liste sans fin de victimes de cette délinquance-là, exponentielle, et je me faisais le reproche presque, je les avais oubliés moi-même. J'ai écrit des articles sur eux. J'ai tweeté sur eux.
Mais il y en avait tellement que vous avez...
Mais il y en a tellement. Les morts enterrent les morts. Et la plupart du temps, ils sont enterrés une seconde fois médiatiquement.
William, juste une... Après, je vous donne la parole. Oui. Julien, évidemment, mais vous avez dit qu'il y aura un avant, un après Lola. Vous avez l'impression qu'il y a eu un avant, un après Paty ?
Avant et après ?
Samuel Paty ?
Ah oui. Ah oui, je pense effectivement...
Donc il y a des solutions. Il y a la possibilité
Non, mais la première, le début du commencement... d'une tentative de sortir de la situation dramatique dans laquelle la France et les Français se trouvent, c'est déjà d'oser le diagnostic. De la même manière quand vous avez un malade. Si, dans le cas d'une maladie, on n'ose pas donner le nom de la maladie et on n'ose pas donner le nom du vecteur de cette maladie, il n'y a pas une chance sur 1000 qu'on puisse guérir. Alors, je ne suis pas du tout sûr... que le mal soit guérissable, parce que à l'état dans lequel se trouve le corps français, le corps social français, je ne sais pas s'il est midi moins 5 ou midi 5, mais je suis bien sûr que les résistances auxquelles nous avons assisté, et dans le mot résistance, malheureusement, je le galvaude, ce sont les gens qui nous empêchent de regarder la terrible vérité en face.
Juste, Julien, je vais vous donner la parole, mais comme vous avez parlé de maladie et de la difficulté de poser les mots sur les mots, c'est la déclaration hier de Gérald Darmanin, vous savez qu'il était l'invité de Face à Baba avec Cyril Hanouna, et il dit, voilà, quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, un mois plus tard, j'ai parlé de l'ensauvagement de la société. Et finalement, on m'est tombé dessus. Mais les Français n'en peuvent plus. On n'arrive pas à poser les mots sur les mots. Et finalement, c'est comme un malade à qui on dit « vous n'êtes pas malade, vous avez un sentiment d'être malade ». Écoutez.
Je ne fais pas tout bien. J'ai sans doute fait des erreurs. Je ferai sans doute encore demain des erreurs, mais j'essaye. Et d'abord, en tout cas, je ne me voile pas la face. Quand j'ai été nommé ministre de l'Intérieur, un mois après, j'ai dit qu'il y avait un ensauvagement dans notre pays. Tout le monde m'est tombé dessus. Moi, justement, je dis les mots sur les choses parce que c'est ce que vous ressentez, c'est ce que ressentent tous les Français. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va voir son médecin et lui dit « je suis malade », et le médecin dit « non, vous n'êtes pas malade, c'est un sentiment d'être malade ». Je pense que ça rend fou les gens. Moi, je pense qu'il y a un ensauvagement de la société, que les crimes sont plus violents, de plus en plus forts dans l'abject. On le voit bien, les couteaux, par exemple, le nombre de coups de couteau qui se donnent, la violence aux personnes, et qu'on doit le constater. Voilà. Et après, j'ai dit une deuxième chose, j'ai dit qu'une partie, une partie de la délinquance était le fait d'étrangers, notamment d'étrangers en situation irrégulière.
Julien Drech devait passer cette réaction bien plus tard dans l'émission, mais comme il a parlé de la maladie, etc. Sur le fait de poser les mots sur nos mots, MAUX.
Mais vous connaissez la formule, mal nommer les choses, c'est déjà commencer par passer à côté de la réalité.
Bien sûr.
Alors, l'ensauvagement de la société, le ministre de l'Intérieur l'a constaté, mais un certain nombre l'avoir déjà évoqué. C'est pas ça. Bon, tant mieux s'il le reprend à son compte cela, mais il y a un ensauvagement de la société qui touche pas que la société française, par ailleurs. Je vous signale que ça se passe dans bien des pays aujourd'hui. Il faudrait analyser pourquoi cet ensauvagement, le poids des images, le poids de réseaux, etc. Bon, le poids de l'éducation aussi, certainement, le poids des cellules familiales. Bon, il y a un ensemble de choses qui doivent être repensées, justement. Mais l'ensauvagement, il est réel, je veux dire, comme la montée de la violence, comme les comportements de plus en plus violents. Le préfet allemand, Dieu sait si j'ai des divergences avec lui sur la manière dont il a géré un certain nombre de choses, mais il disait une image qui, de ce point de vue-là, était juste. Il dit, avant, on volait une vieille dame, on lui prenait son sac. Mais maintenant, en plus de lui prendre son sac, on se sent obligé de lui casser la figure. Voilà, donc c'est en ce sens-là qu'il montrait, l'image était, et en ce sens-là qu'il montrait à juste titre d'ailleurs, cela. Alors après, si vous me permettez, moi je pense qu'il y a une faute dans la communication gouvernementale. Et il y a une faute parce que certainement il y a eu effectivement cette peur que l'évocation de la criminelle donne lieu à des récupérations, etc. Moi, je pense que quand il s'exprime à l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice comme le ministre de l'Intérieur doivent dire deux choses. C'est un crime, respectons la famille, il y a un temps pour le deuil, mais il y aura un temps aussi pour le débat politique, parce que ce crime-là pose des questions politiques. Et nous avons une responsabilité. Nous ne sommes pas responsables du crime, nous ne sommes pas responsables du meurtre, mais la société en général, et donc nous, qui dirigeons la société, nous avons, et donc nous n'esquiverons pas nos responsabilités. Je pense que s'ils avaient dit ça, ils n'auraient pas donné le sentiment qui a été après instrumentalisé en disant « vous voulez cacher quelque chose ». Voilà.
On va écouter dans un instant justement ces échanges à l'Assemblée nationale, puisque vous en parlez. William.
Oui, écoutez, Monsieur Darmanin, que je ne considère certainement pas comme le responsable de cette situation. Hein. Avant l'arrivée de Monsieur Darmanin, c'était encore pire avec Monsieur Castaner, qui voulait mettre
un genou à terre.
Il voulait mettre un genou à terre en pensant à George Floyd. Alors là, il n'est pas question. On risque pas d'avoir un genou à terre sur les stades dimanche pour la petite Lola. Je le dis en passant. Mais quand Darmanin nous dit maintenant tout le monde m'est tombé dessus parce que j'ai parlé d'ensauvagement et de la criminalité étrangère. Bon, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. La plupart des Français lui sont pas tombés dessus.
Non, mais quand, la traduction, c'est que c'est un ovni monde, dans ce gouvernement.
Non, mais c'est tout le monde, oui, c'est tout le monde médiatique.
C'est l'anti du pont Moretti.
C'est tout le monde mondain, si j'ose dire. Donc, à partir de là, c'était quoi votre autre question ?
L'autre question, c'est sur le gouvernement qui refuse le débat. On va écouter ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale.
Bah oui, j'ai pas vu.
Bah oui, bon, on s'y perd un peu parce que ça part. Mais c'est normal. C'est normal. On écoute.
Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante qui n'avait plus rien à faire ici. Voilà la lourde conséquence de votre inaction.
Je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied. C'est une honte, monsieur le député.
100 fois, madame la première ministre, nous vous avons interpellé sur ce laxisme migratoire, sur ces obligations de quitter le territoire dont 90% ne sont pas exécutées. Je l'ai encore fait le 12 juillet dernier, sans réponse.
Un peu de décence, madame la présidente. Un peu de décence et respectez la douleur de la famille, madame la présidente.
J'ai une double question à vous poser. La première, reconnaissez-vous des défaillances de l'État ? Une part de responsabilité. La seconde, que dites-vous aux Français pour que ces tragédies et ces drames ne se reproduisent plus ?
Je crois que la dignité nous commande de ne pas exploiter la douleur indicible d'une famille, de ne pas utiliser la mort d'une enfant à des fins politiciennes.
Je pense que la politique ne peut pas se contenter de pleurer sur les conséquences. Elle doit en dénoncer aussi clairement les causes. Elle doit affronter la réalité pour que ces meurtres ne se reproduisent plus.
Pourquoi le gouvernement refuse le débat ?
Non mais écoutez, très sincèrement, je trouve d'abord la réponse de la Première ministre indigne. Alors certes, elle a mis un peu plus de forme pour répondre à M. Retailleau
le lendemain
qu'à Mme Marine Le Pen, mais se contenter de dire la douleur de quelqu'un et ne pas répondre, elle est première ministre.
Retailleau a peut-être mis plus de
elle est
rondeur
pas, non, mais elle, elle n'est pas ministre du culte, elle est première ministre. Elle est là pour résoudre, pour autant qu'elle le veuille, ou qu'elle le puisse, les problèmes des Français. Quant au garde des Sceaux, j'ai de la peine à le dire parce qu'il s'agit d'un ami, mais là, s'il garde des Sceaux, il parle de marchepied. Il parle de marchepied en ce qui concerne le cercueil de la pauvre môme. Mais enfin, quand il était avocat, quand c'était mon confrère, et Dieu sait si c'est un bon avocat, il se servait de l'anus de Théo. Non, mais je veux dire, non, mais c'était ça la réalité. Pardon de vous le dire. Donc, c'est lui qui expliquait, pendant que son collègue de l'intérieur explique à juste titre qu'on est dans un ensauvagement, mais dans un ensauvagement qui peut s'expliquer,
le garde des Sceaux expliquait que c'était un ressenti, que la France n'était pas comment c'était l'expression.
Je me permets de retirer ce que vous avez dit sur Théo, etc. Ou en tout cas, ça vous appartient, parce que c'est quand même deux affaires peut-être différentes.
On expliquait que les policiers... Non, mais attendez, c'est gentil de faire votre travail de médiateur.
Oui.
On expliquait que M. Théo avait été sodomisé par les policiers, ce qui n'est pas le cas.
Je pense que
c'est faux.
Je pense que c'est de garder un maximum de sérénité dans ce débat. Parce qu'il y a une famille, parce qu'il y a des gens qui sont en deuil. Donc, je n'aurai pas cette coupure entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, puisque M. Darmanin lui-même, dans d'autres émissions, a dit « vous n'avez pas le droit de récupérer », etc.
Vous avez entièrement raison.
Il n'y en a pas un qui a le beau rôle et un qui a le mauvais rôle. Je pense que c'est l'ensemble du gouvernement.
Il y en a un qui a un bon constat, peut-être l'autre un mauvais.
Il y a l'ensemble du gouvernement, d'après moi, n'a pas su affronter cet événement comme il le fallait dès le départ. Voilà. Ça ne veut pas dire que... Alors, je ne leur jette pas la pierre. C'est difficile, c'est très compliqué. Mais... On est dans du drame humain. Mais je pense qu'avoir donné le sentiment qu'on allait esquiver le débat politique sur cette question-là était une erreur.
Non, mais vous ne pouvez pas leur demander la lune. Le président de la République a promis que 100% des reconduites à la
2019.
Frontière seraient...
Mais je ne leur demande pas la lune. Je leur demande 30 secondes, si vous permettez. Je ne leur demandais pas la lune, mais je pense justement que le constat aurait dû être, nous devons réfléchir maintenant de manière rapide au fait que sur cette question de l'obligation de quitter le territoire français, nous ne sommes pas...
Mais ce qu'a fait Gérald Darmanin hier...
Mais ils ont fini par...
Les amis, s'il vous plaît.
On ne peut rien dire.
Non. Voilà. La publicité, on revient dans un instant. On va revenir sur les hommages hier. Est-ce que c'est des hommages citoyens ou c'est de la récupération politique? On va parler également du drame, est-ce qu'il aurait pu être évité, et des obligations de quitter le territoire français. La publicité. La deuxième mi-temps de ça se dispute toujours avec Julien Drey et Gilles-William Golnadel. On continue de parler de ce drame et ce crime atroce concernant la petite Lola, puisque ça fait 7 jours tout pile que son corps a été retrouvé en bas de l'immeuble du 19e arrondissement de Paris. On fait le point sur l'info et ensuite on va revenir sur les hommages, parce qu'il y a eu déjà des hommages, certains qui étaient en accord avec la famille et d'autres pas forcément. Donc il y a eu tout un débat autour de est-ce que ce sont des hommages citoyens ou est-ce que c'est de la récupération politique. D'abord, le point sur l'info.
Un homme armé d'un couteau a été interpellé dans la mosquée de Drancy en Seine-Saint-Denis. Il portait une lame de 30 cm à la ceinture. Il s'agirait d'un Algérien visé par une obligation de quitter le territoire français. L'imam Chalgoumi, qui officie dans la mosquée, a été mis en sécurité. Un supporter marseillais mis en examen pour tentative de meurtre le 13 septembre lors du match Marseille-Francfort en Ligue des Champions. L'homme de 26 ans tire une fusée détresse qui blesse grièvement un supporter allemand. Le mis en cause marseillais a toutefois été laissé en liberté. Le parquet fait appel de cette décision. Tout au long de ma carrière, l'idée de tricher ne m'a jamais traversé l'esprit une seule fois, réaction de la tenniswoman Simona Halep. L'ex numéro 1 mondial a été provisoirement suspendue pour dopage. Elle entend prouver qu'elle n'avait pas consciemment pris de substances interdites. Un échantillon fourni par la joueuse elle-même a montré des traces de roxadustat, un médicament pour problèmes rénaux qui stimule la production de globules rouges.
Information. Je le disais tout à l'heure, il y a eu un premier hommage en accord avec la famille de la défunte ce vendredi à Foucreuil, petite commune du Pas-de-Calais. Et puis à 20h, il y a une veillée à Paris, toujours en accord avec la famille, dans le 19e arrondissement, en l'église Saint-Georges, veillée avenue Simon Bolivar, dans le quartier où habitait la petite Lola. Et les hommages, ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est qu'ils vont se multiplier tout au long du week-end. À Nantes, à Bordeaux, à Montpellier, à Nice, à Marseille. La famille de Lola, elle demande d'arrêter d'ailleurs d'utiliser dans un nouveau communiqué le nom et l'image de leur enfant à des fins politiques. Et le premier rassemblement qu'il y a eu hier soir a fait polémique. Celui à Paris, place d'Enfer Rochereau, à l'initiative de l'Institut pour la Justice, proche de Reconquête. Un temps, les Républicains et le Rassemblement National, d'ailleurs, ont voulu y aller. Et puis, parce qu'il y a eu finalement plusieurs informations qui ont été divulguées, et par crainte de récupération politique, ils ont décidé de faire d'autres hommages. Donc on va voir le sujet de Gauthier Lebray et Adrien Spiteri, et ensuite on va en parler. Peut-être, puisqu'il n'est pas encore prêt le sujet, un premier tour de table. Est-ce que la mobilisation d'hier, c'était un hommage citoyen ou est-ce que c'était de la récupération politique?
Vous parlez de manifestation de Reconquête?
C'était pas Reconquête, justement, vous ne m'avez pas écouté. C'est l'Institut pour la Justice qui l'a...
Ah oui, oui, non, vous avez dit l'Institut pour la Justice, proche de Reconquête.
Exactement.
Écoutez, moi, je Je ne veux pas jouer sur les mots. Alors, je ne sais pas, j'y étais pas. Hein. Mm. Et je veux dire que quelqu'un qui veut saluer, rendre hommage à cette petite fille, et puis qui en même temps veut comprendre ce qui lui est arrivé, ça ne me choque pas. Mm. Comment voulez-vous que je sois choqué par cela? Mais encore une fois, comment voulez-vous que je ne refuse? Pourquoi vous me posez cette question-là?
Parce que non, cette question s'est posée tout au long de la semaine. C'est marrant. Il n'y a pas de tabou sur ce plateau. On a le droit de poser des questions.
Non, il ne faut pas exagérer.
C'est pas ça que je veux vous dire. Mm. C'est que quand la presse a mis la photo du petit Aylan sur la plage, ils ne se sont pas posé de la question de savoir est-ce que la famille d'Aylan pense que ça sera de la récupération. Est-ce qu'il ne faut pas attendre que le petit Aylan soit enterré? Lorsque George Floyd a été aussi utilisé de la même manière, on ne s'est pas posé la question de savoir que pense la veuve de George Floyd. Et par un hasard cosmique, quand une petite Française est tuée par quelqu'un en situation irrégulière, on se pose toutes les questions du monde et on m'interroge pour savoir est-ce que c'est une manifestation citoyenne ou pas citoyenne. Je refuse de tomber dans ce traquenard-là, pardon de vous le dire.
C'est un traquenard, Julien Drey.
Le problème, c'est que le fait de se poser des questions, le fait d'interpeller le gouvernement, le fait de bien comprendre ce qui s'est passé, tout ça est respectable. Le problème, c'est que ce genre de rassemblements tels qu'ils ont été convoqués ne pouvait donner lieu qu'à des débordements. Et c'est ça qui pose problème, c'est les débordements. Parce que ce n'était pas que des gens émus qui étaient là hier. Ce qui a été crié, c'était migrants assassins, journalistes collabos. Et c'était les débordements.
Il y a eu des débordements de l'ultra-gauche également, je tiens à le préciser, puisque apparemment des personnes qui y étaient Elliot, se sont fait agresser.
J'ai parlé de débordements, je ne les ai pas caractérisés. J'ai dit débordements.
Oui.
Voilà, ce genre de manifestation donne lieu à des débordements. Des débordements qui, évidemment, salissent le moment dans lequel on est. Parce que, je m'excuse, mais les images qu'on a vues hier, elles sont pas acceptables. Alors après, moi, on peut me dire, les autres, ils ont fait, donc nous, on a le droit. Ben moi, je ne raisonne pas comme ça.
Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis, moi, que quand les Black Lives Matter, dans la foulée de la mort de George Floyd, où, encore une fois, il y a une bien plus grande spéculation intellectuelle sur le racisme et sur la manière dont ça s'est passé, eh bien, lorsque les Black Lives Matter, pendant un mois...
C'est pas ça la question, Gilles William.
Pardon,
la question,
non,
c'est
non,
pas celle-là.
Julien,
la question, non, je
Julien,
m'excuse.
Non,
bon, 30
non,
secondes, 30
non,
secondes.
Non,
vous,
Julien.
Non, vous allez pas me dire non.
Non, parce que si, je suis en train de parler.
Non,
dis non.
Parce que je m'excuse, je vous ai vraiment laissé. Vous pouvez
oui, d'accord, mais là,
longtemps.
Vous
voilà, ce n'est pas la question qui est posée.
Si.
La question, c'est pas de savoir s'il faut en parler ou non.
Mais si
la question était de savoir si cette manifestation convoquée dans ces conditions-là était justifiée.
Là, je constate que quand les Black Lives Matter est bien pire que l'Institut dont on parle. Ont mis à feu et à sang les États-Unis pendant un mois, s'en sont pris à des blancs, s'en sont pris à des commerces. J'ai pas entendu ici, je n'ai pas lu une ligne dans la presse française pour dire mais quelle horreur, quelle provocation, etc. Rien, zéro esprit critique. Et là, comme par hasard, il y a une manifestation qui est faite. Et j'entends le pire. Pardon de vous dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Comment je peux vous dire le contraire?
Non, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. D'abord, c'était aux États-Unis.
Ouais.
Ce qui s'est passé aux États-Unis était révélateur d'une crise politique majeure sur le comportement de la police à l'égard d'un certain nombre de populations. Mm-hmm. C'était un point parmi d'autres choses, etc. Donc on ne peut pas transposer les situations à l'identique. Premier aspect des choses. Deuxièmement, je vous l'ai dit depuis le début, mais vous faites semblant de ne pas entendre. Mais je le comprends, parce que ça vous gêne, la position que j'ai prise, je le comprends aussi. Vous auriez voulu que je sois dans la caricature que vous dénoncez, c'est-à-dire en disant « on ne parle pas de tout ça et ça ». Je ne suis pas là-dedans, et vous ne m'entraînerez pas là-dedans. Moi, je connais les faits, je les assume, je pense qu'il y a une responsabilité politique, qu'il faut en discuter, qu'il faut en débattre, et qu'il faut trouver des solutions.
Parce que
c'est ça la question qui est posée. Je pense simplement que cette manifestation, dans les conditions dans lesquelles elle était convoquée, ne pouvait donner lieu qu'à des débordements. Voilà.
Non mais attendez, vous me faites un drôle de procès d'intention.
Non.
Mais détrompez-vous, moi je suis très content quand vous avez les yeux ouverts.
Ouais,
je ne souhaite pas d'avoir en face de moi un contradicteur atteint de cécité intellectuelle. Je m'en réjouis ouvertement.
Oui.
Je dis simplement, plus sérieusement, que je n'ai pas lu dans la presse convenue et convenable une ligne de critique par rapport au débordement de Black Lives Matter dans la foulée de l'affaire George Floyd. Jamais esprit critique zéro. Tandis que là,
est-ce que cette manifestation, telle qu'elle a été convoquée, qui a d'ailleurs un très faible succès en termes de participation, je crois 200 ou 300 personnes, après ce qu'on m'a dit, même 500 si vous voulez, regarde l'émotion, est-ce qu'elle ne pouvait pas donner lieu à ces images qui, je m'excuse du point de vue du drame dans lequel on vit,
c'était
choquant.
Je n'arrive pas à trouver des gens qui font des manifestations en hommage à cette môme et en expliquant les causes de sa mort, je n'arrive pas à les trouver tout à fait mauvais. Je suis désolé.
Petite parenthèse, le discours de Julien s'entend parfaitement. Et juste une toute petite parenthèse, puisque vous parliez de George Floyd, William Goldadel. J'ai le souvenir que, donc, je crois que ça se passe le 25 mai, il y a des premières mobilisations début juin, le 2 juin. Et notamment une mobilisation Place de la Concorde où plusieurs personnes prennent et plusieurs associations prennent la parole Place de la Concorde avec des milliers de personnes qui étaient mobilisées. Ouais. Les discours qu'on pouvait entendre étaient extrêmement choquants puisque j'y étais, je m'en souviens. Et on était les seuls à retranscrire ce qui était dit. Mmh. Et notamment un homme qui était porte-parole d'un collectif contre, je crois, c'était le racisme anti-noir. Et il disait « La France est un État terroriste ». Le premier État terroriste au monde, c'est la France. La France est un pays raciste. C'est une extrême violence.
C'est pour ça.
Cette violence, on a pu entendre des mots très violents hier aussi.
C'est pour ça que dans la foulée.
Une violence ne justifie pas une
autre. Complètement. Vous avez raison, c'est ce que je viens de dire.
C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui. Ou des militants, entre guillemets, qui sont dans des débordements hystériques, etc. Oui, c'est vrai. Mais pour autant, ça n'excuse pas les débordements.
Mais ça n'est pas ce qu'il dit. Julien, ça n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que dans la foulée...
Comme il n'y a pas eu à Floyd,
non,
alors il doit...
Non, Julien, je dis que dans la foulée de l'affaire George Floyd, qui a traversé l'océan Atlantique, on nous a fait le coup après de l'affaire Adama Traoré.
Adama Traoré était avant.
Mais non, mais les gens, le comité Adama... a instrumentalisé l'affaire Floyd pour parler du racisme systémique en France.
Il nous reste moins de 10 minutes et je veux qu'on a deux
questions. Zéro critique dans les médias.
Avançons parce qu'on tourne en rond.
C'est pas avec moi que vous polémiquez.
Oui. Vous n'êtes pas.
Je ne suis pas, évidemment. Je vous dis simplement, on a un débat politique. Je peux. C'est comme si vous me dites, moi je ne vous dis pas, vous êtes responsable de la manifestation de jeudi.
Non, mais ça tombe bien, je ne me justifie pas.
Bon, voilà, je ne dis pas, je ne sais pas de vous fabriquer un avis qui n'est pas le vôtre. Je vous dis, la manifestation... D'ailleurs, on ne s'y trompe pas. Marine Le Pen voulait aller à cette manifestation.
Elle a fait une minute de silence. Éric Ciotti n'y est pas allé.
Elle a vite compris, je pense, son entourage lui a dit, qu'elle risquait d'être prise à partie par des images dont elle n'aurait pas la responsabilité, avec des slogans qui n'étaient pas les siens, et c'est pour ça qu'elle s'est retirée.
Avançons. L'enquête. Est-ce que ce drame, il aurait pu être évité? Je rappelle que l'enquête se poursuit afin de comprendre ce qu'il s'est passé vendredi dernier dans cet immeuble du 19e arrondissement. La principale suspecte, Dabia B, algérienne de 24 ans, mise en examen, je le rappelle, pour meurtre et viol avec actes de torture et de barbarie sur mineurs de moins de 15 ans. Elle est incarcérée à Fresnes et elle était soumise à une obligation de quitter le territoire français. Hier, quand on parlait du gouvernement tout à l'heure, le seul qui finalement a pris la parole, a essayé d'assumer s'il fallait assumer quelque chose, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et il a dit c'est toujours un échec. On l'écoute.
Je ne fais pas tout bien. J'ai sans doute fait des erreurs. Je ferai sans doute encore demain des erreurs, mais j'essaye. Et d'abord, en tout cas, je ne me voile pas la face. Quand j'ai été nommé ministre de l'Intérieur, un mois après, j'ai dit qu'il y avait un ensauvagement dans notre pays. Tout le monde m'est tombé dessus. Moi, justement, je dis les mots sur les choses parce que c'est ce que vous ressentez, c'est ce que ressentent tous les Français. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va voir son médecin et lui dit « je suis malade ». Et le médecin dit « non, vous n'êtes pas malade, c'est un sentiment d'être malade ». Je pense que ça rend fou les gens. Moi, je pense qu'il y a un ensauvagement de la société, que les crimes sont plus violents, de plus en plus forts dans l'abject. On le voit bien, les couteaux, par exemple, le nombre de coups de couteau qui se donnent, la violence aux personnes, et qu'on doit le constater. Voilà. Et après, j'ai dit une deuxième chose, j'ai dit qu'une partie, une partie de la délinquance était le fait d'étrangers, notamment d'étrangers en situation irrégulière.
Alors, un peu plus tard, puisque ça a duré 3 heures, cette émission, il a dit c'est un échec. Est-ce que ce drame aurait pu être évité, William?
Écoutez, franchement, c'est la seule question qu'on ne peut pas se poser, puisque... Il est indiscutable, et personne ne peut dire le contraire, que si nous vivions dans un état de droit digne de ce nom, la meurtrière n'aurait pas dû se trouver encore sur ces territoires français et donc la petite Lola serait parmi nous. Ça, tous ceux qui nous empêchent de parler, qui nous expliquent qu'il y a une instrumentalisation, etc., ils échouent devant ce mur de la vérité. C'est pas possible de dire le contraire. Voilà.
Alors, il y a plusieurs questions qui sont posées, y compris qui interpellent le ministre. Le problème aujourd'hui, c'est pas de constater. Le problème, c'est de savoir si, enfin, un certain nombre de solutions vont être débattues pour permettre justement qu'on ne se retrouve pas.
C'est pas la question qui est posée, hein, juge.
D'accord, mais moi je pense que c'est la question qui est posée. C'est celle-là qui est posée.
Pardon, vous répondrez à la suivante après.
Pardon pour le sobriquet.
Je pense que c'est la question qu'on pose à un ministre de l'Intérieur. C'est pas de s'émouvoir, c'est de pouvoir. C'est pas la même chose. Et pouvoir, ça veut dire maintenant comment on fait pour exécuter ces obligations de quitter le territoire français dans la semaine où ils sont prononcés. Voilà. J'ai, vous l'avez remarqué à plusieurs reprises, évoqué un certain nombre de solutions qui ont toujours été balayées d'un revers de la main. Voilà. J'attends que ceux qui me disent il faut, me fassent des propositions. Pour l'instant, vous remarquez que même dans les plus incantatoires dans la dénonciation de ce qui se passe, ils n'ont pas de solution. Parce qu'il y a un contexte juridique qu'il va falloir. Je l'ai dit, je crois que Gilles-William n'était pas là. Je l'ai dit mardi. Je pense que pour pouvoir contourner le contexte juridique, ça passera par une discussion très serrée avec l'Europe et notamment avec la Commission des droits de l'homme. Mm-hmm. Parce qu'on nous objectera toute une série de conditions, etc. Mais il faut maintenant résoudre cette question.
Hassani Kuyssen.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de crimes.
Je ne suis pas un menteur.
Ça veut dire qu'il faut créer les conditions pour qu'il y en ait.
En 2021.
Évidemment, éviter ce genre de situation.
En 2021, 7000 OQTF, obligation de quitter le territoire français pour des Algériens. 2021. Seuls 22 ont été exécutés. C'est ça la clé, William Goldnadel.
Non, mais bon, d'abord, pourquoi je ne fais pas le procès de Darmanin? C'est parce que cette situation-là, elle existait avant M. Darmanin, et comme dit Julien Drey, elle risque, enfin. C'est la conséquence.
Sauf qu'il y a un président de la République qui a dit qu'il s'est engagé à 100%.
Monsieur Macron, qui n'hésite pas à faire des promesses de temps en temps un peu inconsidérées, s'était engagé à ce que toutes soient respectées. Or, s'il était magicien, on s'en serait aperçu. Compte tenu du contexte français et européen, c'est impossible. C'est impossible dans le contexte français, parce que dans le maquis des tribunaux administratifs, vous pouvez faire 10 000 recours avec l'aide d'ailleurs d'associations et de tout ce que vous voulez qui sont subventionnés. Et en plus, vous avez une convention, une Cour européenne des droits de l'homme qui sanctionnerait la France si elle faisait vraiment ce qu'elle devrait faire. Donc si on ne sort pas de cette nasse-là, on ne s'en sortira pas totalement. Ceci posé, même si donc on a d'immenses difficultés, on ne pourrait arrêter déjà le flux. Il y a des possibilités pour arrêter le flux. Et on pourrait également, si vous voulez, au moins dans le cadre de la politique des visas. On nous avait promis qu'on donnerait moins de visas à l'Algérie, moyennant quoi le président de la République s'est précipité en Algérie sans aucun esprit critique, et notamment en raison des problèmes de gaz et aussi des problèmes, j'ai l'impression, presque philosophiques. Et finalement, l'Algérie a toujours autant de visas qu'avant.
Julien, en 30 secondes, parce que je veux qu'on parle de l'imam Chalgoumi.
Oui, mais je voudrais, si vous permettez,
qui
apporter une réponse.
Oui.
Je maintiens que si on met en place, pour contourner la question européenne, si on met en place une politique de quotas, ça veut dire que la France a une méthode spécifique.
Oui.
À partir du moment où il a une méthode spécifique de gestion des flux migratoires, elle est en droit, à ce moment-là, d'affronter l'Europe en disant « c'est notre méthode ».
Elle sort des clous.
Elle sort des clous, mais à partir, non pas d'un contournement. Elle dit, voilà notre méthode. Donc maintenant, c'est vous, l'Europe, qui devez accepter notre méthode.
Bien sûr.
Et notre méthode, c'est celle des quotas qui permet justement que quand quelqu'un n'est pas dans ce quota-là, il est expulsé automatiquement.
J'aurais aimé qu'on ait un peu plus de temps pour parler de deux informations qui sont tombées ce vendredi. D'abord, l'imam Chalgoumi. Ce vendredi, un individu porteur d'un couteau à proximité de l'imam Chalgoumi a été appréhendé. De sources policières, l'homme était porteur d'un couteau de 30 cm. Interpellé dans la mosquée de Drancy où se trouvait l'imam, l'homme a été interpellé sans incident. Au moment de son interpellation, il a continué de fredonner des prières arabes. L'homme est âgé de 42 ans. Il s'appellerait Smail Z, de nationalité algérienne, en situation irrégulière visé par une OQTF. Oui. CQFD, il nous reste 40 secondes. Et je sais que Julien Pasquier va en parler dans l'heure des pros. On essaiera d'avoir l'imam Chalgoumi en direct. Vous l'avez eu au téléphone, Julien?
Oui, enfin, ça, c'est une affaire personnelle. Bon, parce que c'est mon ami. Mais je voulais d'abord dire à l'antenne que cet homme est un homme formidable et que j'ai entendu souvent des gens se moquer de lui, regarder. Et lui, il vous dit en privé, quand vous parlez avec lui, il vous dit « Je sais qu'un jour ou l'autre, il risque de m'avoir. »
J'aimerais bien avoir la racine carrée de son courage.
Je vous ajouter que c'est un musulman merveilleux. Mm-hmm. C'est aussi un ami. Et que, bon, c'est encore la démonstration du drame français. Et cet homme-là est détesté, notamment, je dois le dire, parce que il est également l'ami de la communauté juive et d'Israël.
C'est terminé. On se retrouve demain, cher Julien. Vendredi, cher William. Et nous, à 22h pour Soir Info Week-end. Mais avant cela, vous avez bien évidemment l'heure des Pro 2 avec Julien Pasquier. À tout à l'heure.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.